Bonjour à tous, merci aux auditeurs de Radio Capi. Bienvenue dans cette nouvelle conférence de presse des Nations Unies en République démocratique du Congo. Avec nous, depuis Goma, le porte-parole militaire de la mission, le lieutenant-colonel Taboré Aïdara Mokhtar. Et à mes côtés, ici à Kinshasa, la représentante d'ONU Femmes en RDC, Awan Diaye-Sec, à l'occasion du lancement aujourd'hui de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Je voulais commencer, vous avez certainement vu la réaction de la représentante spéciale et chef de la MONUSCO, Leïla Zeroghi, à la décision rendue lundi par la justice militaire congolaise dans le procès de Ntabo Ntaberi Sheka, l'ancien chef du groupe armé NDC. Il a été condamné à la prison à perpétuité pour crimes de guerre par meurtre, viol, esclavage sexuel, enrôlement d'enfants, pillage, destruction de biens et atteinte à l'intégrité physique. Pour Mme Zeroghi, ce verdict est source d'un immense espoir pour les nombreuses victimes des conflits en RDC. Les souffrances des victimes ont été entendues et reconnues. L'impunité n'est pas une fatalité. Ce verdict témoigne aussi de la détermination des autorités congolaises à poursuivre avec notre soutien, la MONUSCO, mais aussi les autres agences des Nations Unies, le combat judiciaire contre tous les criminels de guerre en RDC, passé et présent. Mme Zeroghi rappelle que la lutte contre l'impunité est un combat au long cours. Il y a encore beaucoup à faire pour garantir la disponibilité des outils nécessaires à un système judiciaire efficace et pérenne en RDC. Mais des progrès importants ont été réalisés par la justice militaire congolaise et nous devons continuer à soutenir ces efforts de manière résolue pour envoyer un signal fort à tous ceux qui commettent encore aujourd'hui des crimes graves contre la population. Plusieurs sections de la MONUSCO ainsi que les ONG internationales Trial International, Avocats sans frontières et l'Association du barreau américain ont travaillé en étroite collaboration avec les autorités judiciaires congolaises à toutes les étapes de ce procès en leur fournissant un soutien technique, logistique et financier. La MONUSCO a notamment accompagné les autorités judiciaires militaires dans les enquêtes conjointes, dans la tenue du procès. La MONUSCO a aussi assuré la protection des parties au procès en collaboration avec les forces de sécurité congolaises et a soutenu activement la participation effective des victimes et des témoins au procès, conformément aux normes de protection judiciaire. Rendre leur voix aux victimes, mettre fin à l'impunité pour les crimes graves commis dans le contexte de conflits armés en RDC est une condition essentielle à la construction de la paix et d'un développement durable, a rappelé Mme Zeroghi. Je vous signale également que la représentante spéciale du secrétaire général sur la violence sexuelle en temps de conflit, Pramila Patten, et son homologue pour les enfants et les conflits armés, Virginia Gamba, ont aussi salué ce verdict comme une importante victoire pour la justice. Concernant l'évasion massive qui a eu lieu il y a quelques semaines à la prison de Beni, la réhabilitation de la route d'accès à la prison par le génie de la MONUSCO est en cours. Cette réhabilitation va faciliter les patrouilles et les interventions des unités d'appui en cas d'incident. En outre, le projet de construction de la clôture de la prison de Beni, financé par la MONUSCO, a été approuvé le 11 novembre. Cette infrastructure va permettre de renforcer la sécurité périmétrique de la prison et permettre aux forces en présence de mieux organiser la protection et la défense de l'établissement pénitentiaire. L'effectif total des prisonniers dans la prison de Beni actuellement est de 572 détenus, dont 79 femmes. Les évadés repris sont au nombre de 295 ou 295. L'unité pénitentiaire de la MONUSCO a aussi organisé récemment deux sessions de formation au profit des personnels de la prison, FRDC, PNC ou surveillants, ainsi que des agents du greffe, en matière de sécurité, de prévention et de gestion des incidents, ainsi que sur la création d'une base de données électronique des détenus en prison pour un meilleur suivi de la situation pénale des détenus. À Goma, plusieurs sections substantives de la MONUSCO ont effectué le 20 novembre une mission conjointe à Kiwanja dans le territoire de Rutshuru, en compagnie du ministre provincial de l'Intérieur du Nord Kivu, Jean Bosco Sebishimbo, et du commandant de Sukola 2, le général de brigade Mweu Lumbu Evariste. Cette descente sur le terrain s'inscrit dans le cadre du plan d'intervention intégré de la MONUSCO pour s'attaquer aux causes profondes des tensions intercommunautaires dans cette région. Sur place, des consultations séparées ont été menées avec les représentants du comité de sécurité, du comité de société civile, y compris des femmes, des communautés Hutu et Nandé. Au cours de ces rencontres, les participants ont été encouragés à exprimer leurs préoccupations et à identifier des solutions pour la cohabitation pacifique entre tous les groupes communautaires vivant dans la région. Une mission de protection est également en cours à Rubaya, au sud-est de Massissi, après une augmentation des incidents dans des villages autour de sites miniers. Je voulais aussi vous signaler que des patrouilles conjointes de sécurité police MONUSCO et PNC ont été lancées à Kananga depuis à peu près 2 semaines dans le but de renforcer la sécurité dans la ville. Les unités de police constituées du Sénégal et du Bangladesh vont travailler de jour comme de nuit en collaboration avec la PNC et les FRDC au renforcement de la protection des personnes et des biens dans la capitale du Kassai central. À Boutembo également, une rencontre organisée par la police de la MONUSCO a réuni les bourgmestres, des chefs de quartier, des notables, des membres des organisations de la société civile, en présence de représentants de la PNC et des FRDC, pour mieux coordonner les efforts contre la criminalité qui sévit dans la ville. Et enfin, en ce moment même, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme organise une cérémonie de remise officielle d'équipements et de documents en vue d'opérationnaliser la bibliothèque de la Commission droits de l'homme de l'Assemblée nationale. C'est donc ici, à Kinshasa. Je passe la parole à mon porte-parole militaire depuis Goma, lieutenant Mokhtar, c'est à vous.
Merci et bonjour à tout le monde. Au cours des semaines écoulées de novembre 2020, la force a exécuté un total de 3737 patrouilles dans le cadre de l'accomplissement de son mandat dans toutes les provinces où les casques bleus sont implantés, plus précisément dans les provinces de l'Ituri, du Nord, Sud Kivu et la province de Tanganyika. Dans la province de l'Ituri, la force maintient les missions de domination du territoire de Djougou, enclin aux menaces des groupes armés ces dernières semaines. Elle met un accent particulier sur la sécurisation des activités de récolte en créant un environnement sûr pour les agriculteurs. Les casques bleus ont participé à des opérations conjointes, jour et nuit, avec les FRDC, principalement dans les villages de Bunda, Boudana, Banoubani, tout en maintenant en permanence la sécurisation de la RN27 pour la liberté de mouvement des populations. Les camps de déplacés de Boule et Ndoromo sont particulièrement surveillés tout en intensifiant les actions de protection de la ville de Bunia en collaboration avec les FRDC. Dans le nord Kivu, la brigade d'intervention de la force dans sa zone de responsabilité a continué à mettre la pression sur les groupes armés à travers des opérations offensives conjointes avec les FRDC. Le 17 novembre, l'unité sud-africaine installée à Maïmoya est intervenue promptement dans le village de Kokola pour stopper une attaque des miliciens contre les civils et contre les FRDC. Les échanges de feu ont repoussé les assaillants et ont permis de protéger la population civile. Les victimes ont été prises en charge et un enfant a été évacué à l'hôpital MONUSCO de Madibi. Dans les autres parties du Nord Kivu, les patrouilles robustes ont été conduites à Kiwanja, Katanda et Isasa, prévenant l'escalade des tensions ethniques entre les communautés Hutu et Mandé. Le 20 novembre, aux environs de 2h, un violent incendie s'est déclaré au marché de bois de Goma et l'intervention des casques bleus indiens installés à Goma a permis d'éviter une catastrophe en arrêtant la propagation vers les habitations avant une extinction complète aux environs de 5h du matin. Dans les provinces du site Kivu du Tanganyika, la force a effectué des patrouilles à pied et à véhicule à Mikenge, à Kainda et Kirindi, a conduit des patrouilles conjointes diurnes et nocturnes avec les unités FRDC, principalement à Bijombo, Kamongo et Kalini, pour empêcher les activités de banditisme et mettre la population en confiance. Les patrouilles de longue durée menées à Kawera et Kampuda ont permis de découvrir et sauver des éléments de soie qui étaient ligotés et laissés dans la bouche. Au titre de la coopération civilo-militaire, la force, en plus des appuis réguliers apportés aux populations, notamment les soins médicaux, les formations, les constructions de ponts et routes, a procédé la semaine dernière à la remise à la commune de Beni de lampadaires installés sur la route Mavivi-Boaikene. Ceci aidera à réduire l'insécurité routière ainsi que la criminalité dans la zone et les violences communautaires. Pour terminer, la force a augmenté les niveaux de fiabilité de performance des drones pour appuyer le mandat de la mission, en particulier en ce qui concerne la protection des civils. C'est ainsi que les drones ont participé activement à localiser et récupérer des fugitifs de la prison centrale de Beni. Ce système est utilisé pour soutenir les opérations des FRDC contre les activités des groupes armés. Le commandant de la force a procédé à une série de visites opérationnelles dans le territoire de Beni, dans l'Ituri, dans le but d'affiner des stratégies de lutte contre les groupes armés. Il a aussi visité Pinga pour discuter du projet de réhabilitation de la rue Pinga-Mpeti. Dans le cadre de réaménagement de la force en rapport avec la stratégie de diminution des effectifs militaires, le bataillon du Ghana qui opérait dans les provinces de Kasaï a arrêté les activités opérationnelles depuis le 1er novembre 2020 et a entamé son processus de rapatriement. Merci.
Merci beaucoup, lieutenant-colonel. Je donne maintenant la parole à Awa Ndiaye-Sek, la représentante de l'ONU Femmes en République démocratique du Congo. Merci de votre présence.
Merci, Mathias. Mesdames et messieurs, chers journalistes et personnalités des médias, chères auditrices et auditeurs, je souhaite vous parler aujourd'hui d'un sujet qui nous est cher à nous tous, la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Il s'agit de toutes les formes de violence sur la base du genre. Que ces violences soient physiques, comme les coups, psychologiques, comme le harcèlement, sexuelles, comme le viol, ou institutionnelles, comme le déni d'héritage. Parfois, les victimes ne sont même pas conscientes qu'elles subissent de graves violences, car il en a toujours été ainsi. Ces violences touchent malheureusement des femmes de toutes les classes sociales et dans toutes les provinces, en ville comme dans les zones rurales. Aujourd'hui débute la campagne des 16 jours d'activisme. Jusqu'au 10 décembre, partout dans le pays et à l'étranger également, des actions sont menées sur le thème « Financer, intervenez, prévenez, collecter ». Plus de 40 activités ont déjà été annoncées par les services publics, les organisations de la société civile, les ONG, les Nations Unies, les ambassades et les bailleurs de manière générale pour informer sur ce fléau. Durant toutes ces actions, vous verrez les participants brandir la couleur orange. Au premier semestre 2020, le nombre de cas rapportés en RDC a doublé par rapport à la même période l'année dernière. La majorité des cas a été dénoncée à Kinshasa et à l'Est. Ces données sont à la fois encourageantes et alarmantes. Encourageantes parce que cela montre que de plus en plus de personnes ont le courage de dénoncer les violences. Mais alarmantes parce que nous savons que ce chiffre, même s'il est élevé, n'est que l'arbre qui cache la forêt des cas réels de violences faites aux femmes et aux filles. Nous savons que la majorité des victimes n'osent toujours pas encore parler et dénoncer leurs agresseurs. Comme dans le reste du monde, la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur les femmes et les filles de RDC. Entre le premier et deuxième trimestre 2020, les cas rapportés ont augmenté de 28%, alors que certains services ont diminué leurs activités du fait de la pandémie. Et d'ailleurs, on l'appelle dans le monde la pandémie de l'ombre. La situation à RDC ne doit pas nous décourager, parce qu'il y a des avancées. Chaque jour, je reçois des nouvelles des provinces où les associations féminines, soutenues par les partenaires, ONU Femmes et tous les autres partenaires font un travail exemplaire pour sensibiliser la population, aider les survivantes et collecter les données. L'autre bonne nouvelle aussi, c'est que le pays a lancé cette année deux initiatives majeures, deux plans majeurs. D'abord, le deuxième plan d'action nationale sur la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous l'appelons plan d'action deuxième génération. Au Nord Kivu aussi, un plan 1325 provincial a été adopté et le comité de pilotage de la 1325 a été mis en place par arrêté du gouverneur. L'autre bonne nouvelle, c'est que la stratégie nationale révisée de lutte contre les violences basées sur le genre a été adoptée par le Conseil des ministres. Ces plans sont importants car ils donnent une vision et permettent une réponse concertée pour prévenir et agir contre les violences faites aux femmes et aux filles. Mais ces plans montrent aussi qu'il y a des réponses politiques à ces problèmes qui se posent. Sous le leadership du gouvernement et avec l'appui des Nations Unies, et c'est la troisième bonne nouvelle, le numéro gratuit 122 fonctionne depuis 6 mois. Les opératrices et opérateurs répondent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, dans les principales langues locales pour conseiller et aiguiller les victimes et leurs proches vers les centres de prise en charge. J'aimerais aussi rappeler que les victimes et les survivantes qui dénoncent leurs agresseurs sont extrêmement courageuses. Le chemin pour obtenir justice et réparation est long et difficile. Les survivantes sont encore souvent trop souvent stigmatisées dans la société et parfois même rejetées par leur famille, alors que les auteurs des crimes continuent leur vie sans être inquiétés. Cela doit cesser. Les femmes et les filles qui ont subi des violences ont besoin d'une aide à 360 degrés pour se reconstruire. Aide psychologique, soins de santé, accompagnement juridique, soutien financier, réintégration socio-économique et pour pouvoir reprendre une activité. Chers journalistes, vous avez un rôle significatif à jouer pour informer la population dans tout le pays et dénoncer les violences faites aux femmes et aux filles. Je vous demande donc, comme vous le faites chaque année, je réitère la demande, que vous fassiez passer 2 messages. 1. Les victimes ne sont jamais responsables des viols et des violences. 2. Nous devons tous dire non à l'impunité des agresseurs et oui à la justice pour les survivantes. Je vous encourage aussi à diffuser des images respectueuses des femmes, des exemples de masculinité positive et à donner la parole aux survivantes. Je vous remercie et je suis prête à répondre à vos questions.